Hi, I'm Giles Martin, and you're listening to Pop Pop Pop, Pop Pop Pop, C'est parti.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. C'est jour de fête. Nous recevons José Garcia, un homme profondément aimable, un merveilleux acteur, un partenaire de jeu, comme on en fait peu, mais aussi, parce que quand même on n'est pas chez les bisounours, un caractère bien trempé. Tiens, par exemple, vous le savez, vous qui écoutez l'émission tous les jours, nous célébrons en ce moment la réédition du White Album des Beatles à l'occasion de son 50e anniversaire. On a donc tous décidé de s'habiller en blanc pour la circonstance. Et quand j'en ai averti José, il m'a aussitôt répondu par texto « Moi, les Beatles, je les encule, je suis Rolling Stones ». Résultat des courses, il n'est pas en blanc mais en noir, par pur esprit de contradiction. Bon, c'est pas très grave, on fait de la radio, même si vous pouvez voir la vidéo de l'émission sur le site franceinter.fr. Et puis, il n'est pas venu parler des Beatles, qui l'encule donc, mais de Lola et de ses frères, le film de Jean-Paul Rouve, dans lequel il joue un personnage, heureusement, beaucoup plus en nuance. Car oui, rappelons-le, une fois encore, José Garcia, en dépit de tous ses défauts et de ses goûts musicaux discutables, est un merveilleux acteur. Et c'est ce José-là qui est aujourd'hui l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
Bonjour José.
Bonjour Antoine.
Ça va ?
Je suis très content de lancer avec ce type de Moi, les Beatles, ils sont inculpables. Moi, je commence à faire plein de nouveaux amis.
Bienvenue dans Pop Pop Pop. À mes côtés. À mes côtés, Charline Roux, tout de blanc vêtu. Bonjour Charline, ça fait du bien une petite lessive.
Tout à fait,
de temps
Antoine.
En temps.
Bonjour Antoine. Bonjour José.
Tout ça évidemment à voir sur franceinter.fr. José Garcia, je reviens quand même sur ce texto que vous m'avez envoyé avant-hier. Je cite à nouveau, hein, moi les Beatles, je les encule. Je suis Rolling Stones. C'est également une déclaration que vous aviez faite au Monde diplomatique le 19 juin 2004. Vous avez de la suite dans les idées, en fait. Hein? Parce que, José, vous avez conscience que nous sommes sur...
France Inter.
Oui, absolument, oui. Une radio qu'on écoute avec une qualité
exceptionnelle. Attendez, c'est quoi cette voix de merde, là? J'ai l'impression qu'on a un problème de micro. Pouvez-vous décaler un tout petit peu?
Un tout petit
voilà,
peu
sur ce micro. C'est bon. Ça va beaucoup mieux.
Un, deux.
Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. José Garcia. José.
Vous êtes en train de me niquer là-bas. Non, non, vous êtes en train de me foutre.
Non, non, pas du tout.
Non, c'est sûr. Oh putain, il n'y a pas de retour, ça c'est mauvais
bon,
signe.
José, c'est bon, c'est bon. On peut mettre le casque. José, ici, il existe une question qui pique.
Mais je ne m'entends pas, je ne m'entends pas, donc il doit y avoir.
Faut que vous mettiez le son.
Alors, faut mettre un peu le son. Une question qui pique encore plus que de l'eau de vie monacale. Et cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi, la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes, indéchiffrables. Parmi mes préférées, il y a celle de Robert De Niro, qui était dans notre studio la semaine dernière. Écoutez.
Are you talking to me?
Vous savez, ce n'est pas évident de définir cette pop culture au sens noble du terme. Je dirais que c'est une culture qui est d'abord née dans la rue. Et j'ai envie de dire que c'est une culture qui est née dans la marge et qui arrive au centre.
Et pour vous, José Garcia, c'est quoi la pop culture?
Je dirais que mon ami, bah, vous voulez que je vous dise en anglais? I fuck the Beatles.
C'est beaucoup d'amour pour les Beatles, nous.
Écoutez, les Beatles, bien sûr.
Pour moi, la pop culture, c'est un mix de beaucoup de choses, en fait. C'est un joli mix. D'abord, le mot pop, je trouve ça assez extraordinaire, quoi. Il y a quelque chose de festif. Mm-hmm. Bon, c'est un mix de beaucoup. Ça peut être de l'art, de la peinture, des affiches de cinéma. Moi, je sais que je sais pas pourquoi, mais quand je pense à pop culture, je pense toujours à soit à Warhol, soit à la Blaxploitation.
Blaxploitation.
Ouais. Je trouve que c'est un symbole. Je crois que c'est là que ça a commencé à avoir cette espèce de culture de la rue. Mais les graffeurs font aussi de la pop culture.
Ah non, c'est très, très.
Ouais, c'est la poésie de la rue, je crois.
Ok. Ça me va très bien, c'est la poésie de la rue.
Voilà.
Je prends. Merci, José. Mais, de toute façon, on va parler de pop, de culture et de pop culture dans cette émission, juste après un morceau d'Orelsan. Et là, je m'adresse à tous les fans.
Orelsan est l'invité de Pop 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 mardi. Je répète, Orelsan est l'invité de Pop 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 mardi.
Bien, en attendant, on écoute. La fête est finie.
Tu trouves la vodka Red Bull dégueulasse. La musique est trop forte, tu connais aucun son qui passe. Un jour tu réalises enfin un tes fantasmes, mais tu ressens comme un vide parce qu'en fait t'as trouvé ça naze. Un jour tu t'écrases et t'atterris dans la vraie vie. T'es plus vieux que ton père sur des photos de quand t'étais petit. Un jour tu te sens perdu dans les fêtes de famille. Leurs portables sont pleins de photos de gosses, toi t'as que des photos de gamines. Quand y'a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. La Un jour tu demandes qui c'est ce gros porc dans la glace. C'est pourquoi tu t'essouffles alors que t'as monté trois mâts à arche. Un jour ton pote traîne qu'avec ses collègues de ta AAF. Pourtant c'est le genre de connard que vous détestiez en classe. Un jour tu te rends compte que personne n'écoute tes histoires. T'étais un jeune cool, maintenant t'es plus qu'un oncle bizarre. Un jour t'as beaucoup plus de remords que désir. Et t'as passé trois mois de stress pour 30 minutes de plaisir. Quand y'a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. La fête est finie. La fête est finie. On était censé changer des choses. Depuis quand les choses nous ont changé? On était censé rien faire comme les autres. Est-ce que tout le monde mentait? On était censé changer des choses. Depuis quand les choses nous ont changé? On était censé rien faire comme les autres. Est-ce que tout le monde mentait?
Orelsan, la fête est finie, c'est extrait de son album éponyme. Éponyme, c'est pas le nom de son album. Hein.
Ah bon?
Non, c'est la fête est finie.
Ah. Oui.
Alors, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de celui qui a doublé Rocco au cinéma. Prétentieux. Enfin, Rocco, le personnage du Yubi, le petit pingouin. Mais qui est-il? Réponse avec son pop portrait. Alors, votre pop portrait, José, c'est votre portrait, bien sûr, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline...
José Garcia, je m'engage ici solennellement à ne baser ce portrait sur aucune info donnée par l'individu assis ici même au centre du studio. Enfin bon. Aujourd'hui donc, nous recevons un comédien dont on se dit que si vous ne connaissez aucun de ses alias télé et ciné, c'est que vous vivez probablement coupé du monde depuis les années 90. Vous êtes donc soit décédé, soit Jacques Séguéla. Aujourd'hui, nous recevons Cindy Trofort, Robert De Niro, Claudia Chiffon, mais aussi Serge Benamou, Melorda Silva, Caniveau, désolé c'est contractuel,
oui, je sais.
Le Turc, John John, Serge Benamou, couvert de pu, Minor, Louis XIV, Serge Benamou, ou encore le commissaire Adamsberg de Pars vite et revient tard, et évidemment le Bruno Davert du Couperet. Antoine m'a aussi dit que vous aviez joué dans le Ruban blanc d'Anneke, mais j'ai l'impression qu'ils ne vous ont pas crédité sur le... Bref, nous recevons un comédien remarquable et que j'aime beaucoup, et je m'engage, moi, à ne pas le maltraiter.
Mais personne ne sera maltraité dans cette émission, et en plus, c'est vraiment pas mon genre.
Non, rouler dans la farine.
Ouais. Bah non, c'est vrai. Quoi ? Bon, José, comme vous avez doublé Rocco au ciné, continuons à parler de films de culte, c'est l'heure de votre pop-list. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un film, une musique, une série culte. Vous avez choisi comme livre un livre d'entretien. Je parle bien sûr pas d'entretien de moteur ou de tondeuse, mais de conversation avec une de vos idoles absolues, Al Pacino. Qui a conversé avec Al Pacino, Pacharline?
Lawrence Grubel, un grand journaliste collaborateur notamment du New York Times et de Rolling Stone, un excellent intervieweur. Il a aussi publié The Art of the Interview et d'autres livres d'entretien avec Marlon Brando et Truman Capote.
D'accord. José, pourriez-vous nous lire un petit extrait comme ça au débotté de ces entretiens?
Écoutez, je l'ai pris comme ça au hasard. Il y a plein de choses. En fait, c'est des entretiens sur plusieurs années. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que c'est presque la vie, enfin, la plus grande partie des films et de la carrière d'Al Pacino. Et on voit surtout tous les doutes, les troubles. Mm-hmm. On voit qu'en fait, c'est ce qui est le plus touchant, c'est qu'au moment où on croit qu'il est au max de sa gloire... Mm-hmm. Bon, en fait, il est dans un doute terrible. Il n'a pas travaillé pendant des années. Il a eu des moments... Et là, je suis tombé juste comme ça tout à l'heure. Je dis, tu penses que tu donnerais quoi dans une comédie? Tu l'ignores, mais c'est ce que je faisais en 1968. J'écrivais des comédies. J'ai monté et joué dans des revues que j'écrivais, dans des cafés, des lieux. En gros, je passais mon temps à faire de la comédie. Mais il se passe un truc étrange, qui me chiffonne d'ailleurs. Ça m'échappe... Ils commandent des sondages et font réellement ça dans les universités. Ils demandent aux gens ce qu'ils veulent voir. Apparemment, les gens ne veulent pas me voir dans des comédies. C'est marrant, non ?
Ouais.
De voir, en fait, je me rends compte à quel point, quand on fait de la comédie, on a plus de chances de pouvoir faire des films sérieux.
Ouais.
Alors que l'inverse, c'est très difficile. Ouais. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des films d'auteur, qui adoreraient faire de la comédie, mais on leur donne absolument aucun crédit. Mmh. Donc voilà, bah, c'est un très joli bouquin qui exprime, qui raconte surtout tous les doutes, tous les moments de déboire, tous les moments où l'on tombe. Parce qu'en fait, quand on est acteur, on prend plus de coups que...
Ouais, ouais. C'est donc un livre que vous conseillez à tous les acteurs qui nous écoutent.
C'est très intéressant de voir le doute d'un type comme Al Pacino, parce que c'est ce qu'il a construit. Il n'a pas eu la chance d'avoir comme De Niro un metteur en scène avec qui il a fait un bout de chemin. Et je trouve qu'il s'est bonifié encore plus qu'un monstre sacré comme De Niro. Mmh. Parce qu'en fait, De Niro, une fois qu'il n'était plus avec Scorsese, il a dû se débrouiller tout seul et c'était plus difficile. Voilà.
Bien, les entretiens d'Al Pacino, c'est édité chez Sonatine. Ensuite, pour la série, vous avez choisi Peaky Blinders de Steven Knight. 4 saisons, 24 épisodes, diffusés depuis septembre 2013 sur la BBC Two. Charline, c'est quoi cette histoire de voyous à casquette?
Les Peaky Blinders, un groupe de criminels sévissant à Birmingham à la fin du 19e. Un gang mené par Thomas Shelby, incarné dans la série par le génial Cillian Murphy.
We're Peaky Blinders. We're not scared of coppers.
We will rip this city of his kind. Justice will be done.
If you want to be part of my organization, you have to make sacrifices. I'm a businessman. I want to make my business successful. From now on, we do it my way.
Et vous, José Garcia, qu'est-ce que vous cachez sous votre casquette? Pourquoi êtes-vous plaît tant cette série Peaky Blinders?
Elle me plaît parce que je trouve que la période choisie juste après la guerre de 14, où des types ont connu vraiment les atrocités, ceux qui en sont revenus étaient des héros. Et je pense que, et je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est le moment, si vous voulez, où des types avaient une espèce de violence en eux, ils avaient connu les atrocités de la guerre. Et cette période, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'après, elle est développée. C'est-à-dire que la première série commence avec l'IRA. La création de l'IRA et comment les Anglais essayent de prendre de la mafia, donc les Peaky Blinders, pour essayer de déstabiliser l'IRA. Après, il y a toute la partie des Russes blancs. Enfin, c'est une période très très forte entre deux guerres. Et je trouve qu'il y a une série de personnages qui sont extraordinaires et qui en même temps ont tous les doutes. C'est-à-dire que c'est vraiment une série, je trouve, très très traitée, en plus très très rock, quoi. Très, les mecs se défoncent. Après, on sent qu'il y a. En fait, c'est l'apparition de toutes les dopes. C'est-à-dire
que les types ont sauvé de la pénicilline, de la peur, ils ont creusé des tranchées. Mmh. Donc je trouve que c'est absolument magique d'avoir traité ce moment-là pour traiter la pègre. Et c'est formidable de travailler sur cette partie de Londres qui est encore dans... Il y a un traitement visuel qui est extraordinaire. Il y a la partie où il y a les Juifs. Après, il y a la partie italienne. Et franchement, c'est un travail remarquable.
Peaky Blinders. Confirmé, ouais. Charline ?
J'adore cette série.
Ben voilà. Vous auriez pu le dire dès le départ.
Je le dis maintenant. Bon. Je ne prends la parole que quand on me la donne, Antoine.
Oh là là là. Comment elles sont ? Pour le film José Garcia, vous choisissez Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, sorti en 1984 avec bien sûr votre très cher Robert De Niro. A noter, Charline, que le film avait changé de titre pour sa sortie belge, c'était devenu Il était en Amérique une fois.
Ah, je n'avais pas cette info, Antoine.
Si, je la donne.
Il était une fois en Amérique, la vie de Noodles dans le Lower East Side, de son adolescence en 1922, où il côtoie le milieu des petits voyous, à l'âge adulte en 33 et à sa vieillesse en 1968.
Arnon Milchan presents a Sergio Leone film. Starring Robert De Niro, Once Upon a Time in America, the story of friends. As boys, they made a pact to share their fortunes.
Agreed.
Their loves and their lives.
You'll put up and you'll shut up. You hear nothing and you see nothing. Just like you did for Bugsy.
You was better off you stayed in the Bronx.
As men, they shared a dream to rise together from poverty to power.
Once Upon a Time in America de Sergio Leone. Pourquoi ça c'est votre film ultime, José Garcia ?
Je crois que c'est une des dernières sagas au cinéma, en fait. Il est vraiment en trois parties, ce film, et les ados qui jouent au départ sont extrêmement émouvants, extrêmement touchants. Après la partie, et puis c'est l'histoire d'une trahison. Il y a vraiment plusieurs histoires en une. Je trouve que c'est un film remarquable. Extraordinaire. Et la musique de
Morricone.
De Morricone, c'est une des musiques, moi, je sais pas. Ce type a un sens, pour réveiller en moi, je suis pas nostalgique, mais c'est marrant quand j'écoute de la musique de Ennio Morricone, j'ai l'impression de voir défiler ma vie. Mm-hmm. Et c'est extraordinaire d'arriver à, enfin, en tout cas, moi, c'est personnel, hein, d'arriver à cette humanité, en fait, avec la musique. D'arriver. Et là, la musique de Ennio Morricone vient amener tout le... Je sais pas d'ailleurs comment on arrive à interpréter ça. C'est-à-dire que on voit De Niro qui est vraiment abîmé par la vie. Ouais. Il se rappelle, il a des souvenirs. Après, il y a une scène. Alors, j'ai appris, parce que la scène de fin, il va fumer de l'opium, en fait, dans un... Voilà, et on le voit, il se jette comme ça. Et puis, la scène de fin, c'est une image qui se fixe sur ses yeux. Et moi, en tant qu'acteur, je me suis dit, merde, mais comment il a fait ça ? Parce qu'on voit qu'il est complètement pulvérisé. Et donc, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment il fait ça ? Et nous, comme généralement, évidemment, on ne peut pas se bourrer le matin, parce que l'après-midi, souvent, on enterre la grand-mère ou on fait un autre travail. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a dit, qui faisait partie de la deuxième équipe. Ben, rien. En fait, ils ont fait comme à l'américaine, c'est-à-dire que le truc qu'on ne pourra jamais faire, nous, on ne sait pas ce qu'il a pris. Il s'est mis une charge monumentale dans sa loge. Ils l'ont sorti. Il tenait à peine debout. Il est venu, il a joué la scène et puis il est rentré. Uh-huh. Voilà. C'est la différence entre les Américains et nous, c'est que nous, on est obligés d'aller à la cantine.
Puisque vous en étiez à la musique, je vous ai demandé de choisir une chanson. Alors là, évidemment, vous ne choisissez certainement pas les Beatles, puisque je le rappelle, vous les enculez. Mais là, laissez-moi vous dire que vous ne vous êtes pas foulé, mon cher José, parce que c'est la BO du même film. Il était une fois en Amérique, composé donc par Ennio Morricone. C'est ça, votre musique préférée ?
Le morceau central, le morceau qui est récurrent et tout me bouleverse.
Vous aimez la flûte de Pan ?
Ah non, c'est pas la flûte de Pan, non, c'est pas ce morceau-là. Hein,
non,
c'est
non, non. Ouais.
Mais oui, c'est ça. J'aime bien la flûte de Pan, j'ai un petit côté satire. c'est une nostalgie. L'envie de courir derrière des petites biches.
Donc Ennio Morricone, voilà. Musique définitive pour José Garcia.
Je trouve ça magnifique d'avoir, en fait, tous les grands films. Sont accompagnés de grandes orchestrations. Enfin, j'aime aussi Out of Africa, mais c'est marrant. Dès que vous passez des morceaux comme ça, c'est quand même magique, quoi. Vous revoyez les images et puis elles s'adaptent exactement aux... Ouais, je pense que tous les grands films sont bien accompagnés, en tout cas musicalement.
Alors, je résume la pop-liste de José Garcia, Al Pacino, Peaky Blinders, Il était une fois en Amérique et Il était une fois en Amérique. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Once upon a time in America.
Il se passe un truc étrange qui me chiffonne d'ailleurs.
Justice will be done.
You was better off just staying in the Bronx.
We're Peaky Blinders.
They shared a dream to rise together from poverty to power.
Apparemment, les gens ne veulent pas me voir dans des comédies.
Voilà un petit détour par la tête de José Garcia.
Joli mix.
Vous vous y retrouvez?
Ouais.
Ouais. C'était ouais. Pacino hein, que vous citiez en disant oui, apparemment oui. Les gens ne veulent pas me voir dans des comédies.
Non, moi ça va encore pour l'instant. Bon.
Est-ce que vous voulez écouter un morceau, un petit morceau de musique?
Des Beatles?
Non, bah, pas les Beatles puisque je vous cite, je les encule. Non, je vous propose d'écouter le groupe américain Hills avec le morceau Bone Dry.
Ah, c'est vachement bien, oui.
Dry dans Pop sur France Inter.
C'est quoi le petit grognement?
C'est un de satisfaction.
Satisfaction.
C'est un morceau du groupe de rock américain Hills. José Garcia est notre invité aujourd'hui et voilà qui nous réjouit. D'abord parce qu'on l'aime, et c'est toujours important de rappeler aux gens qu'on les aime, et aussi parce qu'il est à l'affiche du film de Jean-Paul Rouve, Lola et ses frères, ou après des films d'action comme À fond ou le film érotique portugais Touchouche, voilà qu'il renoue avec ses personnages sensibles et en demi-teinte dans lesquels il excelle aussi. On sait à quel point les rôles de composition vous attirent, José, mais là, disons-le, ce n'est pas vous qui jouez Lola. Hein.
Non.
Bah.
Non, on me l'a proposé pourtant, mais
c'est
je me suis dit non.
C'est la craquante Ludivine Sagnier que vous avez rencontrée quand elle avait 12 ans. commencer par rassurer nos auditeurs, s'il vous plaît. C'était évidemment pas à la sortie d'un lycée.
Non, c'était pour un très joli, une espèce de petit court-métrage sur l'écologie, produit par Delarue.
D'accord. Lola est un film naturaliste qui parle de relations, de famille, de transmission, de deuil. Bande annonce.
Pierrot, qu'est-ce que tu fous ? Rappelle-moi, s'il te plaît.
Alors ?
Répondeur.
Ah non, mais c'est pas vrai. C'est bien ton frère, ça, hein ?
Parce que c'est pas ton frère, peut-être ?
Oui. Je commence pas le déjeuner de mon mariage sans mon frère. C'est pas comme si je me marie tous les jours.
Bon, en même temps, c'est la troisième fois.
Arrête. Il est 14h.
Ah, écoute, j'ai eu que des galères. Franchement, je suis désolé.
Je suis si heureux pour mon frère et ta femme.
Sarah ?
Sarah.
Sarah ?
Je veux plus jamais que tu lui parles. T'imagines, toi ? Il ferait pas la tête si t'allais à son mariage, t'oublies le nom de sa femme.
Merde, écoute, franchement, Sandra, Sarah...
José Garcia, vous êtes donc Pierre, le frangin qui arrive en retard au mariage, se trompe sur le prénom de la mariée et hyperventile quand sa petite sœur annonce qu'elle est amoureuse. Un type charmant, en somme.
Non, oui, c'est un type un peu rugueux, un peu... Ouais, c'est un bloc de granit comme ça, mais qui s'effrite au fur et à mesure du film. Et puis c'est vraiment le rapport entre dans cette fratrie sur la pudeur. Voilà, c'est plus que la transmission, c'est la pudeur. Mmh. En fait, c'est le fait qu'ils arrivent jamais à se parler de face. Ils sont obligés de se mettre côte à côte.
Ils ont perdu les parents.
Oui, ils ont perdu les parents assez jeunes. Ils ont été obligés de se construire un peu. Et Lola, en fait, qui est notre petite sœur, en fait, c'est surtout notre maman. C'est nous, on est comme deux gamins en train de se chamailler tout le temps, en train de tous les jours de s'allumer. Et c'est un film qui est surtout une comédie, quoi. Qui est surtout il y a aussi beaucoup de pudeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est rentré dans un film. Une dramédie.
C'est le nouveau terme.
Oui.
Non, c'est vrai, c'est une comédie douce amère. Enfin, c'est pas la comédie grosse cavalerie.
Non, ouais. C'est pas les situations qui font rire les gens. C'est la maladresse qu'on a les uns avec les autres. Ouais. Voilà. Et les vraiment, à chaque fois, moi, je suis le roi de la gaffe, même avec, j'oublie je me trompe du nom de la troisième femme de mon frère. Après, elle fait des espèces de colliers de bracelets à base de poissons. Donc, je fais rater
sur
rater.
Vous n'êtes pas aidé non plus. Hein.
Non.
On peut aussi voir le personnage, le décrire comme une sorte de Bruno Davert, mais sympa. Votre personnage du coup.
Ouais, c'est un type un peu rude comme ça qui a l'impression qu'il va s'en sortir tout seul et qui veut cacher tous ses problèmes à sa famille et puis qui veut pas trop s'engager, qui a un fils absolument hallucinant qui est joué par Gabriel Nakache.
Très très intelligent. Alors là,
super intelligent. À chaque fois je le regarde, je me dis mais comment j'ai pu faire ça ? C'est pour ça qu'on voit pas la mère. Et puis le rapport de et puis il y a aussi Ramzi Bedia qui est l'amoureux de Lola.
Qui est le jeune premier romantique.
Ouais, il est vachement bien. Il est tout il est attendrissant et une foule d'acteurs extraordinaires. Franck Bruno, Philippe Leroy Beaulieu. Voilà, tous les petits rôles. Vous savez quand les acteurs font des films. Il donne toujours à d'autres acteurs toujours quelque chose à défendre.
Et pour en revenir sur le côté un peu mytho du personnage, pourquoi est-ce que les réalisateurs vous projettent dans des rôles de grands mystificateurs comme ça ?
Bonne question.
Parce que c'est pas le premier pour le coup qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, pour ce qu'il n'est plus, pour.
Je sais pas.
Ah,
c'est une très jolie question, hein. Mais ça me laisse.
Il n'y avait pas pensé en fait.
Penseur, ouais. C'est vrai. Pourquoi? Parce que peut-être j'ai le côté latin qui fait que il y a toujours quelque chose d'un peu. Finalement, les gens me connaissent, mais ils me connaissent toujours quand même avec un masque d'une certaine manière. Et peut-être que c'est ça qui est une espèce de revers de médaille.
Mais justement, José, on connaît tous votre talent pour pousser les personnages jusqu'au délire parfois. Est-ce que jouer la sobriété, presque l'effacement, comme vous le faites dans Lola, c'est une contrainte à laquelle il vous est difficile de vous plier ?
Pas du tout, non. Parce qu'en fait, ce qui est difficile dans le cinéma d'auteur, c'est pour ça que j'en ai pas fait depuis un petit bout de temps, c'est que souvent on vient parler de l'intime, mais on a toujours des personnages qui parce qu'ils parlent de leur intimité, sont des personnages assez, assez neutres finalement. Et moi, ce que j'adore dans ce personnage-là, c'est qu'en fait, c'est un type qui est en résistance. Et à travers cette espèce de carapace comme ça, c'est plus facile, c'est plus intéressant pour moi, mais de pouvoir le concasser à l'intérieur. Voilà, c'est ça qui me plaît. J'ai besoin de personnages qui soient forts, quoi, qui aient vraiment quelque chose à défendre. C'est pour ça que je suis retourné en Espagne pour essayer de faire des trucs qui étaient plus proches de la chair et du sang, quoi. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'en France, il y a des gens qui travaillent sur l'intime 10 fois mieux que moi. Moi, je suis un peu
On peut peut-être un éléphant dans
On vous retrouve dans Lola, le film de Jean-Paul Rouve, dans un registre qui rappelle, comme le disait Charline à l'instant, un registre qui rappelle ce que vous avez pu faire chez Costa Gavras ou chez Régis Varnier. Est-ce que vous pensez qu'on vous offre suffisamment de rôles de cette nature ou que votre image de personnage marrant continue à vous emprisonner?
Non, on m'offre plein de choses, mais c'est vrai que souvent, je vous dis, soit les histoires ne m'intéressent pas, soit les personnages n'ont pas assez de... J'aime bien faire des personnages que j'ai pas eu l'occasion de faire. Mm-hmm. Celui-ci, il est génial parce que vraiment, il est complètement à part de ce que j'ai eu jusqu'à maintenant. Donc je suis un peu comme un junkie en fait, que ça soit en comédie ou que ça soit dans les films d'auteur, je suis toujours en train de chercher quelque chose de différent, quelque chose que je sais pas faire. Mm-hmm. Et c'est ça qui me passionne. C'est dans une trouille terrible et dans un doute terrible tous les matins quand j'arrive en me disant comment je vais finir la journée. Et ça, c'est difficile parce que voilà, il y a plein de rôles. Il y a sujet, verbe, complément. Il pléonasme un peu ce qu'ils font et tout. C'est pas intéressant. Je sais que je vais m'ennuyer. Si je m'ennuie, évidemment, les gens vont s'emmerder encore plus, quoi.
José Garcia, vous dites que la comédie a été un vrai refuge pour vous, l'enfant étrange aux amis imaginaires. Vous attendiez avec impatience le film de De Funès du dimanche soir, histoire de vous échapper. Alors attention, petit test, écoutez, puis on en parle juste après.
My sweet Brick! Brick, come hug me, I know you want to! I am completely miserable, San Diego! It's so damn hot! Milk was a bad choice.
Quel genre d'effet produit aujourd'hui sur vous ce genre d'extrait Will Ferrell dans Ron Burgundy, José Garcia? Et est-ce que votre rapport à la comédie en tant que spectateur a changé?
Alors, d'abord, Will Ferrell est un génie absolu. Je crois que c'est l'acteur le moins bien payé des États-Unis. Il avait un nombre de villes hallucinant. Mais je dois dire que pour les deux films qu'il a fait, un qui s'appelle Step Brothers, donc ces deux frangins, des mecs qui ont 40 ans, quoi, et de croire à cette situation.
Et quand l'autre étant John C. Reilly, quand même.
D'être capable de tenir cette situation quand on voit la concentration dans laquelle ils sont, moi je trouve ça magique parce que on finit par y croire alors que c'est improbable. Et c'est ça la comédie, c'est-à-dire le deal que vous faites avec le public pour vous dire voilà, je vous raconte un truc qui est impossible, mais je vais le faire quand même. Et puis vous allez venir avec moi. Voilà, c'est ce que fait dans La Grande Vadrouille un type comme De Funès quand tout d'un coup il pose sa perruque sur un porte-perruque, il prend une aiguille, il la plante sur le truc et il se fait super mal à la tête. C'est improbable.
Ouais. Et Will Ferrell fait partie de ces acteurs américains qui vont très très loin, qui poussent le bouchon au-delà de la limite.
Ah bah les rois du patin, quand vous voyez qu'en fait il y a deux types qui travaillent, qui décident, on comprend tout de suite qu'il y a vraiment le patinage. C'est vraiment en couple et qu'il y a plein de poses qu'on peut pas faire avec un garçon. Et tout de suite, la première pose, c'est le mec se fait tenir par le paquet en l'air. C'est magnifique.
Et ça pourrait vous tenter des propositions comme ça? Des trucs vraiment très radicaux?
Je sais pas si on arrive à les faire en France. Je sais pas si on arrive à accepter. Je crois que ça a à voir aussi.
Moi, j'ai une idée, j'ai un pitch. Vous voulez qu'on essaye tous les deux?
Oui, d'accord.
Les rois du patin? Je finance le film. Je mets toutes mes économies dessus si vous voulez.
Non, je vous en parle.
Oui, très bien.
Deux frères siamois.
Oui.
Un seul anus. L'un des deux est gay.
C'est très tentant. Alors, et ils écoutent les Beatles. Et ben ça c'est le genre de scénar, j'aimerais bien l'avoir, effectivement. Vous voulez faire le frère siamois, c'est ça?
On essaye. Top.
Allez. Ça va. Il va falloir trouver un auteur, qui soit à la hauteur.
Un producteur aussi.
Voilà, et des producteurs, oui.
Bien sûr. José, est-ce que vous savez faire ça?
Oui, je sais le faire.
Allez-y, faites-le alors. Il sait le faire.
Oui.
C'est pour lancer les pop news.
Ah, c'est magnifique. J'ai dit des temps.
Ça faisait longtemps que nous n'avions parlé, mais là, c'est un cas de force majeure. Voici l'un des meilleurs Tutotal ever. Je rappelle le principe pour les novices. Tutotal analyse un film d'après sa bande-annonce et à grand renfort de tuto YouTube. Cette semaine, analyse de Ma mère est folle de Diane Curis avec Vianney et Fanny Ardant. Extrait.
Donc l'histoire, c'est Vianney qui est super saoulé par sa mère parce qu'elle fume de l'herbe, elle danse, elle écrase des enfants. Alors que lui, il s'habille en pull en cachemire gris et il dit des platitudes comme...
On a tous une mère.
Oui, donc en gros, l'histoire, c'est pas Ma mère est folle, c'est Mon fils est chiant. Mon fils, c'est Vianney.
La suite, c'est sur arte.tv.
Ça va pas,
vous êtes souffrant, clairement.
Non, pas du tout, je vais très bien. Je chantais l'intro du Roi Lion, parce que la bande-annonce du film vient d'être dévoilée. Extrait.
toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi.
Ça, c'est la chanson du Roi Lion.
Ah ben, oui, ben, c'est exactement ce que je chantais. Il y a
pas exactement,
instants.
Non.
Si,
mais
si,
bon.
Si,
non, chantais Johnny Clegg.
Ouais.
Non, le Roi Lion. Si, Bonanga, c'est Johnny Clegg.
Le Roi Lion, le film de John Favreau avec en VO les voix de Seth Rogen, Donald Glover et Beyoncé, et en français celle de José Garcia, ce sera le 17 juillet au cinéma.
On peut pas. Antoine Decaune.
Non, c'est pas.
Non,
c'est
je
pas
ne fais ni le babouin, ni. Okay. Non, non.
C'est moi, oui, c'est moi.
Le Roi Lion ?
Non, je suis censé enchaîner sur le
Donne
que faire. Oui, c'est moi, donc je le fais quand même. Merci Charline. Et je rajoute une pop news, car sort aujourd'hui un album pour les 15 ans d'Headbanger, ou Headbanger, comme dirait Didier Lambrouille, avec tous les hits du label interprétés par l'orchestre L'Amoureux. Connectons-nous, comme on disait dans Loft Story, avec le patron du label, Petro Winter, alias Péped. Bonjour Pedro.
Salut Antoine.
Bon anniversaire.
Salut Pedro.
Bon anniversaire. Oui, oui, ça va. On avait parlé du concert symphonique ici dans Pop Pop Pop, mais aujourd'hui l'album sort, c'est bien ça?
Exactement.
C'est tout?
Ah non, ouais, non, mais attends, exactement, je pensais que tu... Je peux, pardon, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Non, non, bah on a attendu, alors on a attendu pourquoi? Bah parce qu'on a voulu faire un beau disque, on a pris le temps de l'enregistrer avec l'Orchestre L'Amoureux et ses 70 musiciens dans un sublime studio, et on s'est dit que Noël était une bonne période pour sortir ce disque anniversaire et célébrer
bien sûr
ces belles années avec notre public.
Alors je l'ai écouté, j'ai adoré bien sûr, et j'ai envie qu'on écoute Baby I'm Yours, le nouveau de Breakbot. Vous êtes ok Pedro?
Très bon choix, Antoine.
Bon, alors on va écouter ça. Et au fait, Pedro, vous avez mis sur l'album le morceau que je vous avais conseillé. Vous savez, Dick Rivers façon Headbanger.
Oui, alors non, on dit que ça sera une version bonus qu'on sortira pour la Saint-Valentin en 2019.
D'accord, très bien, je compte
je
sur vous.
Je crois que la Saint-Valentin a été annulée en 2019, Pedro. Mais
Ah merde.
Bon, merci Pedro.
On m'a pas prévenu. Merci à vous.
Merci, joyeux anniversaire. Et on écoute cette nouvelle version de Baby I'm Yours. Hmm. Baby I'm Yours, c'est un morceau de Breakbot en version symphonique réinterprété par l'orchestre L'Amoureux dirigé par Thomas Roussel, à retrouver sur l'album Headbanger 15 qui sort aujourd'hui pour l'anniversaire du label. Hein.
Absolument.
Voilà. Oui. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de José Garcia, venu nous parler de Lola et ses frères, le nouveau film de Jean-Paul Rouve. Ça va José, ça se passe bien?
Ça se passe super bien, oui. Alors, non, j'ai bien ri, j'ai passé un très bon moment.
On a réfléchi au pitch?
Au pitch, oui. Alors je trouve ça de plus en plus tentant. Moi, je trouve que c'est une très belle idée.
Je dis que ça s'essaye.
Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment qu'on fasse ce pitch et qu'on aille voir un petit peu les boîtes de production pour leur raconter. C'est ça.
Alors moi, je veux bien faire le documentaire sur le moment où vous allez voir les boîtes de prod pour pitcher ce film.
Mais ça, déjà, ça peut faire
un
très joli documentaire déjà.
Non, mais attends, un truc à la Ricky Gervais un peu.
Il y a peut-être des producteurs qui nous écoutent, donc c'est le moment ou jamais d'essayer de lancer cette idée, non?
C'est sûr, ils sont en train d'effacer nos numéros de téléphone, ça je peux vous le dire. Non,
mais s'il y a des producteurs qui nous écoutent, pop@radiofrance.com. N'hésitez pas, manifestez-vous.
Bon. José, d'abord, je m'excuse parce que c'est vrai qu'on a un peu traficoté le début de l'émission.
Oui, ouais, non, je sais, j'ai bien compris. Dès que j'ai senti que dans le casque, il n'y avait pas de retour.
Vous voulez entendre ce que ça donnait?
Oui, je veux bien, oui.
Écoutez. Ah, c'est sûr que ça enlève d'un seul coup un peu de dignité, un peu de... Hein.
Bah oui, mais bon, non, j'ai l'habitude, hein. Je savais qu'il y avait un truc pour une fois déjà que je prends pas de la peinture ou un machin, je préfère déjà la radio, c'est déjà un petit peu plus safe.
C'est-à-dire que moi qui suis très extérieur à votre couple, est-ce qu'à chaque fois que vous faites une promo dans laquelle Antoine est impliqué et inversement, vous êtes en tension avant d'y aller?
Il y a eu des moments où on était beaucoup plus en tension, le moment où on a défoncé le plateau de nulle part ailleurs. Ça a été, elle serait sur le gâteau, je dois dire. Mais c'est vrai que, non, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on s'affûte à chaque fois, parce qu'on peut s'en, voilà, tout peut arriver.
Un petit jeu.
Est-ce que vous venez stressé, par exemple, quand vous venez faire une émission écrite?
Non. Super détendu.
Ouais.
Mais non, parce que je sais que de toute façon, il va m'arriver des trucs, donc voilà. Bon, donc
non, c'est très calme aujourd'hui.
Oui, là, pour l'instant, c'est très calme.
Non, mais ça va rester, parce qu'en fait, tout ça est un jeu très amical.
Oui.
Très,
ah oui, non, très... mais je sens bien qu'il n'y a aucune méchanceté, mais moi, je serais stressé. Mais après, c'est...
Non, on s'arrête toujours au bon moment, c'est-à-dire qu'on ne va pas démonter les roues de l'un, de l'autre. Le coup des téléphones, déjà, ça nous a calmé, parce que ça a été quand même des moments d'insolence.
Oui, vous avez passé des années à dévoiler le portable l'un de l'autre.
Rien, ça a été sur 3 coups, mais il y en a eu un, c'est avec moi. J'ai attendu un an. Le premier, c'était à Solidays. Donc, voilà. Et le deuxième, c'est moi qui étais au Energy Awards. Donc, c'est 12 millions de personnes. Mmh. Mais la grande force d'Antoine, c'est qu'une fois que je lui ai envoyé 1 million de personnes qui ont appelé sur son portable, il a attendu, je ne sais pas quelle heure, il a dû attendre un moment particulier parce que votre téléphone, vous ne pouvez plus y toucher.
Il faut savoir que
ça sonne, ça sonne sans s'arrêter avec des numéros. Et en fait, il a fait un dérivé d'appel. Donc, on s'est retrouvés comme deux idiots.
Sur le vôtre.
Voilà, sur le mien. Et puis après, on s'est fait engueuler un peu par tout le monde, par la famille. Parce que, évidemment, plus personne pouvait nous joindre. Donc, voilà. Ça...
En fait, il y a eu un moment où ça montait quand même en puissance. C'est-à-dire, on jouait à se surprendre et à se choper l'un l'autre.
Oui.
Moi, j'ai notamment le souvenir d'un truc qui m'est arrivé. Vous n'étiez pas là, José, je peux le raconter? Ça intéresse
Oui, c'est nous, moi, ça m'intéresse.
Ouais, alors, faut un jingle.
Worldwide exclusive news from Pop 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 Studios.
En fait, un jour, j'étais invité à un défilé Jean-Paul Gaultier.
Oui.
Et j'arrive un peu en retard. Donc, c'était blindé. Et ils avaient réservé 2 très bonnes places au premier rang du défilé. Donc, j'arrive à la bourge, je m'assois. Et il restait une place de libre à côté de moi. Et puis, personne. Et à un moment, je vois une créature qui s'approche, toute boudinée, dans cette petite robe, une espèce de mini-jupe dorée atroce, maquillée comme un garage de camion.
Ouais.
Et qui vient s'asseoir à côté de moi. Et j'ai été vraiment persuadé que c'était vous.
Ah bon?
Ouais.
Ah ouais.
Au point de lui dire, José, ça va, arrête tes conneries, je t'ai reconnu tout de suite. Mais... Et c'était Bess Ditto.
Merde.
Je l'avoue. Bien, alors, un petit mot pour finir sur Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve.
On va faire plein de potes aujourd'hui, on va avoir les
oui, je crois que là c'est bon,
les
en fait.
Mecs vont arriver en blanc, les copains des Beatles, là on va avoir pas mal de...
Vous avez besoin de vous troller l'un l'autre, je pense que c'est bon.
José, tiens, je vous offre mon antenne, prenez une minute et arrivez à convaincre tous ceux qui nous écoutent d'aller voir Lola mercredi.
Bon, bah, écoutez, c'est simple, c'est un moment. En fait, les gens, je vais même pas. Quand on finit, là, on a fait une grosse tournée province. Mm-hmm. Et en fait, ce qui est très émouvant, c'est que quand on arrive à la fin, on parle avec les gens. Et d'habitude, vous savez, on nous pose plein de questions qui n'ont rien à voir avec le film ou plein de choses. Et là, les gens ne font que de se raconter, que de parler d'eux, que de parler de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs parents, des gens qui les ont quittés trop tôt et tout ça. Et ils nous remercient pour le bon moment. Mmh. Voilà. Donc, il n'y a rien de plus beau que de parler de la vie, que de donner aux gens envie d'appeler leurs proches, quoi, finalement. Et puis, on est dans une période comme ça où, voilà, tout est un peu dans tous les sens. C'est vrai que c'est un moment de... C'est une comédie, en plus. Donc, voilà, il n'y a rien de triste, c'est juste du fun.
Bien, merci José. Lola et ses frères, le film de Jean-Paul Rouve, ça sort avec Ludivine Sagné, avec Ramzy Bedia. Hein, oui. Je n'oublie personne, et Jean-Paul Rouve, évidemment, qui joue sa sœur mercredi prochain sur l'écran. Il est 16h49, c'est l'heure pour moi de descendre à la cave. Et comme tous les vendredis, j'attends le magnéto, le grand n'importe quoi d'Alexandre Verret. Je vais aller voir s'il est arrivé.
Allez. Très bien.
Bah, il est où? Oh, il arrive d'en haut, là. Oh, visiblement, ils ont visé n'importe comment. Oh, il est gros.
Alors professeur, comment marche votre accélérateur de parole?
Eh bien c'est très simple, sachant que la vitesse du son est proportionnelle à la racine carrée de l'élasticité du milieu, ce qui veut dire que dans notre cas, dans l'air, plus la température augmente, plus celle-ci augmente. Par exemple, à une température de 0 degrés Celsius, la vitesse du son est de 331,6 mètres carrés par seconde et passe à 334 mètres par seconde à 20 degrés. Il suffit donc de placer un nanoradiateur thermodynamique entre ses fesses pour accélérer le déplacement dans l'air de son débit vocal, car comme chacun sait, l'anus est directement relié au corps vocal afin donc d'accélérer le déplacement dans l'air de son débit vocal. En évitant bien sûr la moindre flatulence qui ralentirait immédiatement le processus, car les molécules d'un gaz anal sont extrêmement lourdes et densifient l'air, ralentissant le son.
Merci professeur, c'était très clair.
Allons, Dimbo, calme-toi. Calme-toi, ce n'est rien qu'une toute petite souris inoffensive. Hein? N'est-ce pas que tu es une très gentille petite souris?
File-moi ton fric ou je te crève, bâtard.
Ping-pong, circulate.
N'importe quoi, n'importe quoi.
Et ça, Bobby, tu sais le faire avec tes oreilles? Tu sais pas, hein?
Over. Merci Alexandre Verret, dose hebdomadaire de n'importe quoi chaque vendredi dans Pop Pop Pop. José Garcia, vous voulez écouter un dernier morceau?
Avec plaisir.
Les Beatles?
Oui, comme ça.
Mais non, mais comme vous les enculez, on va les écouter parce que je vous rappelle que c'est une semaine spéciale et même un mois spécial que nous consacrons.
Il reste que Ringo Starr et McCartney, donc que ça va être vite fait.
Aux Beatles sur France Inter. Et on va écouter par exemple Martha My Dear en version remasterisée qui vient de sortir. Écoutez. José, tu peux pas enculer tout le monde quand même. Ben non, c'est pas possible.
Il reste que deux.
Ah oui, mais.
Martha, my dear, though I spend my days in conversation, please remember me. Martha, my love, don't forget me. Martha, my dear, hold your head up, you silly girl. Look what you've done. When you find yourself in the thick of it, help yourself to a better what is all around you. Silly girl, take a good.
Arta, my dear, nouvelle version à retrouver sur la réédition du White Album à l'occasion des 50 ans de la sortie de l'album mythique. José Garcia, on a eu un gros chagrin il y a quelques semaines avec le départ de notre filou. Et vous le savez, ici, nous sommes à la radio, un médium très prisé. Et sur ce médium, il y a un autre médium, Christine Gonzalez, qui a accepté d'entrer en contact avec Filou. Rien que pour nous.
Oui, quand José Garcia et Antoine Decaune sont réunis, il y a forcément Philippe Gildas au-dessus, mais il a du mal à en placer une. Hein.
Donc, c'est pas la peine de me faire parler, je ne parlerai pas.
Ah, vous êtes déjà là, Philippe Gildas?
Oui, c'est absolument magique. Hein.
Écoutez, je vous pose juste 2-3 questions, pas plus, promis.
On est d'accord.
On est d'accord.
J'espère que c'est pas chiant.
Bah, écoutez, c'est Antoine Decaune hein, qui a insisté pour que vous reveniez.
Je pense qu'il a un problème, Antoine Decaune.
Oui, bon, ça.
Un type de génie, oui. Un peu autiste.
Attendez. Navrant. Non, attendez, il est juste à côté de moi, là.
Ah, non, non.
Un homme merveilleux, vraiment. Et cette capacité.
Autant vous prévenir, il y a aussi José Garcia qui est là.
Garcia, extraordinaire. Hein.
Vous avez vu le sale coup que lui a fait Decaune à votre enterrement?
C'était noir comme du mâche-fer, noir sur noir. Et tout d'un coup, on a vu apparaître une dame parfaitement nickel, que, blanc pour le reste. Et c'était
la femme de José Garcia, habillée en blanc.
Je ris encore en y pensant.
Avec Garcia habillé en blanc, parce que Decaune lui avait fait croire que c'était le dress code.
Faut quand même le faire, je veux dire que c'est idiot.
Oui, et José Garcia dit qu'il est tombé dans le panneau parce que bah, c'est une bonne nature.
Le malheur des autres me fait rire. Hein.
Et dans l'au-delà, Philippe Gildas, ça fait marrer vos copains, cette blague d'Antoine?
Il a fait un tabac.
Bon.
Ah, vous voyez?
Tant mieux. Bon, avant de se dire au revoir, encore un mot, ça va vous?
J'ai dit la mort, quelle connerie. Parce que plus j'y pense, plus ça m'énerve, vraiment.
Vous n'envisagez pas un comeback?
Non, c'est ça qui me gêne dans la mort, c'est que c'est pas envisageable.
Bon, dans ce cas, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse en sorte que bah, quand on se retrouve tous, on se marre bien, d'accord?
T'inquiète pas ma poule, je m'occupe de tout.
Allez, belle soirée.
Bon, merci.
Merci Christine. Merci. Oh, ça nous faisait du bien. Hein
ouais, ouais.
Ah, c'était bon de réécouter notre petit filou. Mais il a l'air d'aller très bien.
Il est en pleine forme.
Hein ouais. Mais ça voudrait dire qu'il y a une vie après la vie?
Il semblerait.
Oh, mais José, ça nous ouvre des horizons.
Bah, en tout cas, on pourra toujours monter des films là-bas.
Notamment.
J'ai un pitch, c'est l'histoire de frères siamois
ouais.
Qui auraient un anus.
Ouais.
Et éventuellement, il y en a un qui est gay. Mais ouais. Je ne sais pas si c'est
génial.
Déjà pris.
Ça
me semble un peu osé. C'est, ouais, c'est peut-être pas, la France n'est pas prête.
Vous voulez dire,
ni l'au-delà.
Il faut attendre d'être mort, c'est ça pour le.
J'ai l'impression.
Bon. Okay. Merci Christine, merci infiniment Christine Gonzalez. On vous retrouve tout de suite dans l'émission Par Jupiter. Merci à Charline de vous avoir prêté. À nous. Dites-moi, mon cher José, si vous deviez laisser un objet dans ma cave, comme le font tous les invités de cette émission, cela serait quoi?
Je vous laisserai l'intégrale des Beatles. Ça m'évitera de faire n'importe quoi demain soir.
Ça ne vous occupe pas. Bien, merci José Garcia d'être venu nous parler de votre passion pour les Beatles. C'est la semaine de la sortie du White Album. Je rappelle que votre film Lola et ses frères sort mercredi prochain et je sais que Paul et Ringo profiteront de leur passage à Paris pour aller le voir. Ils sont là mercredi prochain. Quel âge. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Anne-Laure Cochet et Serge Viguier, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Hugo Combe et Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Colin Gruel, notre stagiaire. Lundi dans Pop Pop Pop, Steve McQueen, pas Steve McQueen, hein, l'autre Steve McQueen, le réalisateur quoi, enfin bon bref. Mais avant lundi, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur France Inter, si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous, ou plutôt comme disent ceux qui font des tutos découvertes linguistiques sur YouTube.
Excusez-moi, je vais te couper la bite en rondelle.
Ce qui veut dire, abonnez-vous à notre podcast et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615, pop, 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 sur Instagram et Twitter.